Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. C'est, elle vous protège. Si jamais il y a du danger, et ben, ouais, ben moi, je suis avec une hyène.
Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Libre Radio, la radio antispéciste. www.libradio.org.
Pour terminer cette journée radiophonique, eh bien, nous allons revenir sur un journal dont on a parlé tout à l'heure, dont on a fait la présentation tout à l'heure, qui s'appelle Le Crétin des Alpes. Un journal qui a été fondé et animé par Narcisse Prat, que l'on salue, dont on profite de l'occasion pour le saluer, qui désormais habite tranquillement dans son Valais de prédilection. Le Crétin des Alpes, c'est un journal libertaire, pour le moins, qui était à l'initiative de choses assez singulières et de notamment une initiative qui avait été proposée aux Nations Unies pour que les anarchistes puissent avoir le bénéfice d'un territoire comme la Palestine a été créée, et bien qu'on permette aux anarchistes du monde entier de pouvoir se réunir et vivre différemment que des autres personnes au sein d'un territoire dans lequel ils ne seraient pas soumis aux différentes répressions dont, qui ont cours un peu partout dans le monde et dont tu sais certainement le contenu. Alors voilà, là nous allons, pour te donner un peu le ton du journal, faire lecture d'un extrait d'un long article qui s'appelle « Les luttes dévoyées », parce que souvent on se dit on se trompe de cible, etc. et on est dans des temps troubles où on ne sait plus très bien qui fait quoi, entre les false flags et puis les fake news, on ne sait plus exactement qui manipule qui pour en arriver à des situations catastrophiques telles que l'on vit actuellement. Alors voilà, là ça parle un petit peu de ça. Il faut savoir que ça a été quand même rédigé par le sieur Narcisse Prat, un 15 juin de 1979. Donc ça date quand même un peu et c'est assez marrant de voir que effectivement certaines choses sont évidemment passées, mais il y a quand même une forme d'actualité dans ce que l'on va lire. Alors on y va. Le titre de l'article, c'est « Les luttes dévoyées » et c'est donc paru dans Le Crétin des Alpes, numéro 3, du 15 juin 1979. Voilà. Alors je voulais prendre... Voilà, je voulais commencer là. Nous sommes descendus dans la rue pour le Chili, pour la Grèce, pour l'Espagne, pour le Portugal. Nous avons gueulé « Vive la lutte héroïque du peuple vietnamien !» Nous avons gueulé « Franco, assassin !» Nous avons brandi des pancartes « Chat, donc le chat d'Iran, salaud, le peuple aura ta peau !» etc. Fin de citation. Je regrette pourtant d'avoir à vous dire, toutes ces luttes-là ont été des luttes dévoyées, des luttes vaines, des luttes à côté du vrai problème. L'histoire a démontré la faillite totale de tous les systèmes autoritaires. La preuve ? Elle réside dans la condamnation à mort prononcée à brève échéance par les gens de pouvoir contre la planète Terre. L'histoire a démontré, je cite, que le pouvoir fasciste visant à la domination universelle par une prétendue élite autoritaire à outrance mène à la destruction de l'humanité. La guerre de 39-45 est là pour nous le rappeler. Et que le pouvoir bourgeois visant à l'exploitation de la majorité des humains par une minorité de privilégiés conduit à l'Holocauste déguisé en lutte patriotarde. La guerre de 14-18 est là pour nous le prouver. En fait, de quoi s'agissait-il ? De noyer dans le sang toute une jeunesse qui aspirait à une révolution de type probablement marxiste-léniniste. Et l'effet fut probant, on utilisa la classe ouvrière française pour liquider dans le sang la classe ouvrière allemande. Tout cela sous couvert de patriotisme et à charge de revanche. Je trouve que c'est assez clairvoyant quand même. Allez, encore un. Que le pouvoir marxiste-léniniste aboutit à une autre forme de domination et d'anéantissement de l'individu et de la petite communauté d'individus au profit du gigantisme étatique dont l'URSS et la Chine sont les plus brillants exemples. Et enfin, que le pouvoir prétendument démocratique qui consiste dans nos fallacieuses démocraties occidentales a délégué ses droits de décision à une poignée de technocrates détenteurs des instruments de coercition, d'éducation et d'information aboutit au même résultat, le nivellement de la personne humaine et surtout la négation d'une conscience collective qui interdit à l'homme d'anéantir son environnement. Et je trouve qu'effectivement, cette dernière partie, elle est très d'actualité. Deuxième petit extrait, là où est le pouvoir, là est la destruction. On peut dire à l'heure actuelle que l'humanité a tâté de toutes les formes de pouvoir, hormis un, le dernier, et c'est vers celui-là que tendent désormais tous les efforts de ceux qui crèvent d'ambition, la domination planétaire. Or, qu'avons-nous en face de nous dans cette course aberrante ? Deux points, une force capitaliste bien pyramidale, avec à la base les peuples exploités, par les premiers prédateurs, tiers-monde à la merci du néocolonialisme des multinationales, plus haut dans la pyramide, les nations disposant d'armements sophistiqués, typiques, les sous-marins atomiques de la France, Éternel et Bataillard, la bombe atomique israélienne, j'en passais les meilleurs, et plus haut, naturellement, les États-Unis d'Amérique. Et ensuite, une force qui se dit progressiste, où deux supermen se livrent une bagarre qui serait ridicule si elle n'était tragiquement macabre, le gigantisme chinois face au gigantisme soviétique. Voilà, je voulais m'arrêter là, parce que je trouve assez marrant, on y trouve effectivement des éléments du passé, certes, c'était en 1979, mais il y a quand même des éléments, il me semble, qui sont des éléments d'actualité, et même encore du futur. Enfin, je trouve qu'on peut lire là-dedans des choses assez intéressantes sur ce qui nous arrive actuellement. Et puis, je pourrais continuer, hein, parce qu'après, on parle encore de l'Iran, on parle de, voilà, peut-être ces deux pyramides de l'absurde, hein, que l'on vient de citer, prônent l'une et l'autre la coexistence pacifique, tout en se préparant à l'hécatombe finale. C'est peut-être une jolie formule pour terminer cet extrait de la lecture du Crétin des Alpes. Voilà, un journal clairvoyant, il y a eu assez peu de numéros, mais on les a, ces numéros, à la Bibliothèque du Peuple. Alors, il te suffit de nous y rejoindre. Pour en terminer, juste le petit mot final, parce qu'on avait, dit en entrée de sujet le Libellé, hein, le Crétin des Alpes, le journal... Oh le journal salé, satirique, autonomiste, libertaire et écologique. Eh bien, allô, tu veux gagner des sous, à l'époque, facile. Tu t'annonces au Crétin des Alpes, il y a un numéro de téléphone avec un vrai 022 32 87 50. Tu as le numéro vraiment de l'époque là, avec 6 chiffres. Pendant la semaine, et tu dis simplement « Salut crétin, j'aimerais vendre le Crétin des Alpes à la crier dans la rue, dans les bistrots, devant les cinémas, devant les stades, devant les foires, partout où il y a du monde. » Et tu reçois 1 franc par exemplaire vendu. Le prix du truc est 2 balles et t'en recevais 1 pour toi, donc la moitié du truc. C'est valable partout, de Genève au Jura en passant par le Valais, Fribourg et tutti quanti. Dis, tu te vois en criant à la terrasse des bistrots, le crétin des Alpes, demandez le crétin des Alpes. Est-ce vraiment plus stupide qu'autre chose, que beaucoup d'autres choses? Allô, allô, ici le crétin des Alpes, j'écoute, tu veux gagner des sous? Et c'est signé le crétin. Voilà, on fait un immense grand salut amical, cordial à Narcisse Pram, le fondateur du journal, et qui donc réside actuellement, si vous voulez lui faire un petit coucou. Il avait encore jusqu'à récemment, je ne sais pas s'il a encore, une page Facebook, notre ami nonantenaire... Narcisse Prin. Voilà pour le Crétin des Alpes. Sache que la Bibliothèque du Peuple contient plein de petites perles comme ceci, que tous les dimanches, a priori dans les grottes, au 5 bis rue des Amis, en face du pavillon bleu, eh bien, la permanence de la bibliothèque a cours, et si elle n'a pas lieu là, tu peux te renseigner à l'adresse suivante, www.libertaire.noblogs.org, et là tu trouves le lieu où la bibliothèque se meut, parce qu'elle est également mobile, et que toutes ces petites choses nous accompagnent quasiment systématiquement. Et que donc tu y es le bienvenu, ainsi que si tu souhaites venir nous lire certains textes, que ce soit à la bibliothèque ou à la radio, bienvenue également. Voilà, est-ce que tu aurais envie peut-être, Olivia, de dire un petit bout de ce que tu as entre les mains ou pas trop?
Non, alors moi c'est vrai que dans la continuité de ce que tu disais, pas du tout sur le même thème, mais là je feuilletais ton petit livre Revue anarchiste, donc qui date de 78, juillet 78, et le premier texte en fait, c'est par rapport aux luttes urbaines. Alors ça, je peux vous lire un mini extrait du texte, parce que je trouve que c'est vraiment d'actualité en fait, et là il parle dans ce texte que je vais vous lire de dans 20 ans, voilà ce qui risque de se passer, et effectivement, donc 78, 98, ben oui en fait c'est ce qui s'est passé aussi, et donc voilà, en fait en gros ça rejoint un petit peu un concept un petit peu du pouvoir d'agir du citoyen finalement par rapport à la problématique du logement et puis à l'aménagement de l'espace urbain. Qui n'est pas forcément pris en compte argotiquement, ce qu'on appelle l'empowerment en fait quoi. Donc voilà, le pouvoir d'agir. Je vous lis juste cet extrait, lutte urbaine s'appelle. Donc voilà. Alors, depuis toujours, l'architecture est le domaine réservé du prince. Que ce prince soit Louis XIV ou Giscard, il n'y a pas d'intervention active de l'habitant dans le domaine de l'habitation ou de la ville, sauf à titre expérimental dans le cadre des municipalités ou dans des interventions ponctuelles spontanées. Jusqu'au XIXe siècle, il paraissait naturel aux usagers de l'architecture de ne pas avoir accès aux problèmes de la ville. De nos jours, bien que l'on se dise en démocratie et en période de concertation, il faut constater une absence totale de dialogue entre les promoteurs et les usagers. Que ces promoteurs soient l'État, les municipalités, parce que le suffrage universel n'existe pas pour le domaine bâti, ou des promoteurs privés, car les architectes et les ingénieurs n'aiment pas beaucoup avoir des contacts, hors leur clientèle. Entre parenthèses, ils n'ont jamais songé à demander l'avis d'une clientèle collective. Il faut constater aussi la faillite de l'architecture contemporaine, faillite de la promotion de l'État, des promoteurs privés, des architectes, voire des spéculateurs. Par exemple, le responsable de la construction des HLM, qui d'ailleurs en 79 était en très grande expansion, enfin la construction des HLM à ce moment-là, eh ben, le responsable de la construction de ces HLM a déclaré à la presse que dans une vingtaine d'années qui vont suivre, il faudra démolir des milliers de HLM parce qu'ils ne correspondront plus en fait, aux critères de viabilité actuellement officiels. Dans cette faillite, certains en sont venus à se poser des questions de la part des architectes, pardon. Et si on demandait aux usagers ce qu'ils en pensent ? Et de la part des usagers, mais que pouvons-nous faire en tant qu'usagers ? Un certain nombre d'exemples montrent que les usagers peuvent, s'ils le veulent, avec l'appui des spécialistes, faire entendre leur voix et faire aboutir leurs souhaits. Donc ça, c'était la première partie de ce texte qui fait environ 4 pages, quoi. Et voilà, je trouvais intéressant parce que, de nouveau, ça date de 78. Il parle à cette période-là, beaucoup d'HLM ont été construits, mais finalement sans aucune concertation avec les usagers même de ces mêmes HLM. Et voilà, quoi, quand on voit que... il parle du responsable de la construction d'HLM en 78 qui a dit clairement que dans 20 années, il faudra démolir tous ces bâtiments. Du coup, ça pose des questions un petit peu sur... finalement, de nouveau, la voix qu'on donne finalement aux gens qui habitent l'espace urbain, qui habitent les villes, qui les font vivre. Voilà, quelle voix est-ce qu'on donne à celles-ci et quel pouvoir finalement décisionnel elles ont sur les conditions qu'elles souhaitent avoir pour vivre en toute dignité. Maintenant, le problème au jour d'aujourd'hui du logement, de l'accès au logement, c'est une problématique malheureusement de plus en plus actuelle, quoi. Et donc voilà, je trouvais intéressant de... Voilà, après ce que Kramps, toi, t'as lu, quand on regarde en arrière et qu'on regarde aujourd'hui, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, la question se pose encore sur le pouvoir d'agir des citoyens. Et puis ça se posait déjà en 78, il faut croire que...
On a peut-être même régressé. Mais effectivement, peut-être. La géographie... Alors, c'est vrai qu'on est dans une ville ici qui est assez active et il y a beaucoup de la société civile qui s'interroge, qui questionne les espaces urbains, les espaces publics. Et effectivement, il y a des démarches qui sont géniales, comme effectivement ici à la Big Biennale où on voit qu'il y a une forme d'appropriation de l'espace public pour l'art contemporain, pour le faire entrer en interaction avec un maximum de gens. C'est vrai qu'il y a des projets, typiquement des potagers urbains qui se mettent en place. Mais c'est aussi vrai qu'on sent bien... Et on l'a lu hier lors d'un des communiqués de la Big Biennale que à cette réponse, à cette riposte citoyenne de réappropriation et de redéploiement de l'espace public, notamment également des piétons par rapport aux voitures, de cette géographie, de la tension qui existe dans les villes, on voit bien que rien n'est neutre. Que si les citoyens poussent vers plus de liberté, le communiqué le disait bien, on a une institutionnalisation et une forme d'administration qui devient tellement hypertrophiée que finalement les citoyens sont à nouveau confinés à des décisions, à des demi-mesures, à des décisions sans conséquences. Par exemple, la multiplication des demandes d'autorisation qui sont longues, qui sont difficiles et puis qui sont chères également. Ouais. Donc on est dans une période où effectivement, peut-être sous couvert d'une aide institutionnelle, en fait, on se retrouve à ne pas du tout assister à ça, exactement. Même au contraire. Et ça, c'était ce qui est dénoncé ici. Parmi les choses qui sont dénoncées ici à la Big Biennale, c'est justement cette hypertrophie administrative.
C'est comme si on donnait le pouvoir d'agir aux gens, mais pas le pouvoir d'agir librement. Et puis,
Un pouvoir d'agir qui est sous condition, et les conditions qu'on décide nous et pas eux. Et un cadre, en tout cas un référent indépassable.
C'est pour ça que ces événements sont hyper importants, au même titre que les événements récurrents comme la critique Almas, ce genre de choses de réappropriation de l'espace urbain.
Ouais.
Qu'il faut continuer, ma foi.
Ouais. Et de manière incontrôlable. On appelle aussi à ça.
Exactement.
Alors, à moins que des personnes souhaitent intervenir, prendre la parole, dire quelque chose, non, c'est pas le cas. Donc, on va se laisser là. On va se laisser avec une petite dédicace pour Igor, bien entendu. Puisque, ce qui est fait est fait. Et ce qui va être dit, va être dit. Non, tu peux pas faire ça. D'ailleurs, attends, tu vas voir. C'est une chose. Nous, on va juste encore remercier toute l'équipe de Fréquence Banane Lausanne, Genève, notamment le comité genevois qui fait tout ce travail pour remettre à flot Fréquence Banane. On sait que ça bosse dur, malgré l'été, malgré les examens. On se retrouve, nous, demain, de nouveau ici à la Big Biennale à plein palais pour la continuation des interviews des différents collectifs et artistes qui seront de passage à la radio. Demain, rappelle-toi que l'on va effectivement relayer la table ronde qui contiendra le sujet de la Divine Comédie, puisque c'est le sujet de fil conducteur de l'espace Kugler qui accueille très gentiment Libre Radio. On va se laisser avec cet extrait, un moment culte de la télévision où Maurice Clavel nous disait des choses à l'époque. On va se laisser avec ça. Libre Radio, c'est www.libradio.org. Nos horaires habituels, c'est les samedis, tous les samedis de 14 à 17h. Et puis ensuite, bien entendu, à n'importe quel moment, tu trouves tous les podcasts de ces petites interventions impromptues sur le site de la radio, ainsi qu'une newsletter. À demain, et à la semaine prochaine pour l'émission normale en direct et en public. Ciao.
Bien, donc voici le film de M. Maurice Clavel. Monsieur Maurice Clavel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre film ?
J'ai beaucoup de choses à ajouter à mon film.
Tout de suite ?
Tout de suite. Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Je viens de rédiger la déclaration à l'instant. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais pu vivre, ni écrire, ni parler sous le régime de la censure. On m'a prévenu dans l'après-midi de cette coupure qu'on m'opérait, de cette chose inouïe, et j'ai élevé une protestation solennelle. Mais cette chose inouïe, j'attendais de la voir pour la croire. Je l'ai vue. En conséquence, je viens de prendre la décision suivante. Je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure, quelle qu'en soit la victime, moi ou M. Royer. Qu'il soit bien entendu, M. Royer, que je ne me dérobe pas à une confrontation entre nous sur le problème des mœurs et de la culpabilité de la société. Je vous propose de la reprendre sur n'importe quelle chaîne de radio libre, s'il en existe, et si évidemment vous renoncez à la censure dont vous constatez ici le désastre. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie contre ces espèces de morts que sont la censure et autres fascismes, j'ose non moins modestement lui donner rendez-vous pour bientôt dans la liberté, pour la liberté. Messieurs les censeurs, bonsoir.